Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 FM ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Guillaume Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Bayard, vous êtes metteur en scène et vous êtes ici pour nous présenter un spectacle Tartuffe de Molière. Et actuellement, vous êtes au Théâtre Désert, en résidence d'ailleurs ?
Non, pas en résidence. Là, pour le moment, c'est de la diffusion de spectacles, des spectacles qui existent déjà. Mais par ailleurs, on présentera un autre spectacle à la rentrée. Enfin, on va en présenter plusieurs, mais il y en a un pour lequel on a fait un peu de résidence à Die, mais c'était en juin dernier. Et ça s'appelle « Faillir être flingué ». C'est un western et c'est l'adaptation d'un roman éponyme de Céline Minard. Voilà, un roman contemporain qui se passe au Far West.
Guillaume Bayard, metteur en scène, depuis combien de temps ?
Ça fait 20 ans, disons, que je fais ce métier-là, quoi. Je suis en fait acteur et metteur en scène. Je fais les deux, j'ai toujours fait les deux. Mais j'ai plutôt attrapé le théâtre par le jeu. Je suis d'abord un acteur avant d'être un metteur en scène. Mais assez vite, les deux positions m'ont intéressé et j'ai pas arrêté d'alterner en fait entre les deux. Donc là, par exemple, dans Tartuffe, d'ailleurs le titre complet est Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière. Là, je fais tout. C'est-à-dire que je joue et je mets en scène et je joue la pièce tout seul. C'est une performance, on dit, il y a un côté performatif, enfin un peu particulier quoi, une mise en jeu un peu spéciale. Mais peut-être je peux vous raconter le dispositif sans trop dévoiler de trucs.
Oh, bien sûr, vous êtes ici pour nous en parler.
Donc c'est très, voilà, je me suis proposé un dispositif de jeu assez simple. Il y a une table, les noms des personnages sont écrits au sol. Et moi, je suis là et je vais me déplacer sur les noms où ensuite il y a un système de codification. Je vais montrer avec la main de certaines façons pour faire comprendre que telle personne parle à telle autre. Et ça me permet, comme ça, en me déplaçant dans l'espace et en mettant pas mal d'énergie, de réveiller la pièce de Molière, en fait. J'essaye de la... C'est un peu une sorte de rituel où il y a un côté un peu chamanique. Enfin, l'idée, c'est voilà, moi, je suis un catalyseur et j'essaye de faire apparaître la pièce et de faire apparaître 10 personnes alors que je suis tout seul, des visages qui ne sont pas les miens, des voix qui ne sont pas les miennes, mais sans être dans un rapport de représentation. Je ne vais pas singer les personnages, par exemple. Je modifie très peu ma voix. C'est vraiment des petites intonations, des petites variations. Il y a un côté presque minimaliste. C'est pas un jeu très appuyé, quoi. Et j'essaye d'activer la pièce dans son entièreté, voilà, de la faire apparaître, en fait.
Le Tartuffe, quel sens a-t-il pour vous, ce mot ?
Ouais. Il en a plein. Et il en a un, par exemple. En fait, il y a un livre qui m'a pas mal intéressé, mais que j'ai lu après avoir monté ce projet-là. C'est un livre de Roland Gori qui s'appelle « La fabrique des imposteurs ». Je crois que c'est ça le titre. Et Roland Gori, c'est un psychanalyste, si je me souviens bien. Il a peut-être plusieurs casquettes d'ailleurs, mais et qui a participé au groupe « L'appel des appels », qui a beaucoup réfléchi à comment s'institutionnalise, comment évoluent les institutions de soins en France et puis plus largement dans la société, les institutions. Et dans ce bouquin-là, en fait, il théorise quelque chose et il dit qu'en fait, la figure de l'imposteur devient la norme dans notre société. Je m'explique et je l'explique, c'est-à-dire, il dit en fait, l'imposteur, c'est celui finalement qui sait rendre compte. C'est-à-dire qu'il ne sait pas forcément faire quelque chose, mais il sait donner l'image ou donner les codes d'un rôle ou d'une situation ou d'un savoir-faire. Et il dit, voilà, dans le monde professionnel, de plus en plus, on nous demande d'être des bons imposteurs. Et pas forcément d'être dans un rapport à un savoir-faire précis. Et ceux qui réussissent sont les imposteurs, ne sont pas forcément ceux qui arrivent réellement à faire les choses correctement et de façon précise, mais plutôt ceux qui savent représenter le bon rôle ou la bonne posture. Et je pense que c'est assez marrant, et il parle de Tartuffe d'ailleurs dans le livre, et c'est vrai que dans la pièce de Molière, il y a déjà ça en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est quand même une histoire, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Tartuffe, qui arrive dans une famille. Quand la pièce commence, il est déjà là dans cette famille depuis un moment, on comprend. Et c'est un dévot, donc il va s'avérer être un faux dévot. Donc c'est une sorte en fait de figure qu'on connaît plus trop, parce que c'est une sorte d'assistant de vie. C'est un truc qui se faisait pas mal à l'époque dans les familles. Donc c'est pas qu'un religieux en fait. C'est aussi quelqu'un qui peut, suivant les situations, être précepteur ou s'occuper des enfants, aider à la bonne marche de la famille, éthique, morale, au bon fonctionnement familial en fait. Et c'est une situation à cette époque-là qui était courante. Et là, en fait, c'est un bandit, en fait, Tartuffe. Donc, il se fait passer pour ça, mais il l'est pas. Et on comprend à la fin de la pièce qu'il a fait le coup à plusieurs familles et qu'à chaque fois, il repart avec de l'argent. Et il est dans cette famille. Il fascine complètement le père de famille. Et c'est le père de famille qui lui donne la clé d'entrée dans la famille. Le père de famille s'appelle Orgon. On pourrait presque dire qu'Orgon est amoureux de Tartuffe. En tout cas, il est fasciné, quoi. Il est complètement aveuglé, il le trouve génial, formidable. Et personne ne comprend pourquoi, parce qu'Orgon est un type, par ailleurs, qui a une réputation d'être intelligent, courageux, qui a fait des trucs dans sa vie. Voilà, il n'a pas de difficulté particulière de ce qu'on sait, de ce qui est dit dans la pièce, en tout cas. Et donc, Orgon introduit Tartuffe dans sa famille, et Tartuffe va essayer de tout s'accaparer. C'est-à-dire l'héritage monétaire, le patrimoine, les femmes de la famille. C'est-à-dire qu'il va essayer de se marier avec la fille d'Orgon, mais aussi il va essayer de séduire sa femme, qui est une deuxième femme, c'est la femme d'un deuxième mariage, donc c'est pas la mère des enfants. Et Tartuffe est une sorte de super stratège relationnel, et en même temps, c'est un être de transgression. C'est-à-dire qu'il sait très bien se mettre à des endroits où on l'attend pas, passer des limites qui sont socialement des tabous ou des interdits, enfin, et il joue avec ça tout le temps, quoi. Et c'est un menteur, il n'arrête pas de mentir. Donc, et en quelque sorte, il a une mainmise, et des fois, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme un être démoniaque en fait, c'est-à-dire qu'il prend possession de la famille. En quelque sorte, le système famille est aveuglé, même s'il y a des individus dans la famille qui voient clairement le jeu de Tartuffe. Mais si on regarde cette famille comme un organisme ou comme un système, le système est complètement verrouillé par Tartuffe. Pendant très longtemps dans la pièce, il maîtrise tout et tout le monde, quoi. Il arrive à tout tenir.
Voilà. Tartuffe a plus de 3 siècles depuis son écriture. Quel rapprochement peut-on faire avec notre époque ?
Alors, je vais vous faire une réponse longue. Mais évidemment que quand on monte un classique, quand on va chercher une pièce qui est très datée, on va chercher des justifications. Et bien souvent, quand un metteur en scène, une metteuse en scène va monter un classique, il va mettre en scène les justifications qu'il a trouvées à monter cette pièce. Donc il va, en quelque sorte, donner à voir un argument, quoi. Et dire, cette situation-là pourrait nous faire penser à ça aujourd'hui. Moi, j'aurais pu peut-être, par exemple, si je l'avais lu avant, me dire, ah mais Roland Gori, c'est génial, il faut que je fasse un parallèle entre ce que dit Roland Gori de la figure de l'imposteur dans notre société maintenant, et puis Tartuffe de Molière. Mais c'était pas du tout ça le projet. Le projet, à la base, j'étais il y a longtemps maintenant, dans un projet d'un autre metteur en scène qui s'appelle Gwenaël Morin, qui montait des classiques, que des pièces classiques. Et le principe, c'était qu'on jouait on jouait une pièce pendant 2 mois. Et pendant qu'on jouait cette pièce-là, on en répétait une autre, qu'on allait jouer les 2 mois suivants, et ainsi de suite pendant 1 an. Donc au bout du compte, il y avait 6 pièces. On est arrivé avec Lorenzaccio, et Tartuffe était la deuxième. Et moi, je ne m'étais pas engagé pour le projet sur un an, parce que j'avais d'autres choses à faire, mais j'étais dans les répétitions de Tartuffe. Et à un moment, il y a eu une crise de groupe qui a fait que des gens sont partis, ça a commencé un peu dans le chaos, cette affaire, puis ça, finalement, ça s'est bien fini, enfin ça s'est fini en tout cas. Mais il y a un moment où le spectacle n'était pas prêt, et donc, en fait, j'ai proposé, parce que j'en avais le temps, je leur ai dit, bah, si vous voulez, moi, je peux lire la pièce, fort des répétitions qu'on a fait. Je vous propose de lire la pièce tout seul, d'accueillir le public voilà, le soir. Ça permet de continuer de répéter la pièce la journée, de tenir le contrat de ce projet qui s'appelait le théâtre permanent. Et voilà, et ça arrange tout le monde. Et moi, ça m'intéresse de faire ça et tout ça. Et tout le monde a dit, OK, banco, faisons ça. Donc, j'ai fait cette expérience-là, de lire la pièce pendant 2 semaines, tous les soirs, devant des gens. Et j'avais, en fait, mis une table avec des petits bouts de papier, avec les noms des personnages écrits dessus. Et avec mes doigts, j'indiquais qui parle. Parce qu'assez vite, comme c'est écrit en alexandrin, en fait, je me suis très vite rendu compte que si je donnais le nom du personnage avant d'attaquer l'alexandrin suivant, on cassait le rythme des 12 pieds. Et que, bah, y a quelque chose s'effondrait, parce que c'est une structure aussi très musicale et rythmique, en fait, cette pièce-là. Donc, j'ai fait ça 15 jours, et en le faisant, je me suis dit, mais c'est, en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. Faut pousser le minimalisme jusqu'au bout, et on peut tout à fait, comme tout est dit, c'est du théâtre où vraiment, on dit tout le temps à qui on parle, il n'y a pas de sous-texte, on dit ce qu'on dit et on dit ce qu'on pense. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça où si tout ce qui est dit est compris, on n'a pas besoin du comportement, on n'a pas besoin d'image, on n'a pas besoin de mise en situation pour comprendre ce qui se passe. Donc du coup, je me suis gardé ça dans un coin de la tête, et quand j'ai eu du temps, je crois que c'était 3 ans après, à un moment où je me suis retrouvé un peu aussi à quitter des collectifs de travail, c'était un moment de solitude recherché. Je me suis dit, je vais essayer de monter ce truc, de monter Tartuffe tout seul. On verra ce que ça fait. Et je pensais pas du tout. Je me suis dit, je vais le jouer une fois, puis voilà quoi. Mais bon, j'ai mis quand même 1 an et demi à le monter par petits morceaux. Et puis en fait, c'est une pièce que je joue depuis 9 ans. C'est un peu mon tube. C'est-à-dire que c'est aussi très léger, pas très cher pour les lieux. Enfin, et puis ça fonctionne, je crois. Enfin voilà, y a un truc. Donc j'ai fait ça. Et oui, j'ai pas fini de répondre, pardon. Je voulais rajouter un truc sur la résonance sur l'époque, ouais. Et du coup, en fait, le parti pris là-dessus, ou la chose, disons, à laquelle je crois, c'est qu'en fait, les classiques n'ont pas besoin qu'on leur fasse dire autre chose que ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si une pièce, disons, résonne ou se met en rapport avec des problématiques de maintenant, si une pièce ancienne fait ça, elle n'a pas besoin qu'on appuie ses résonances ou ses mises en rapport, elle a juste besoin d'être activée. Et ça, c'est peut-être un truc un peu général du théâtre que j'essaye de faire, c'est que y a une sorte de place qui est laissée au spectateur, et les pièces que je fais en quelque sorte ne sont jamais totalement finies. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part laissée à différents endroits, ça dépend des pièces et c'est jamais la même chose, mais il y a toujours une place laissée à l'imaginaire et à l'intelligence du spectateur pour qu'il puisse, dans sa tête, terminer la pièce. C'est-à-dire que moi, je donne des appuis, j'essaye d'être extrêmement précis, rigoureux sur comment je mets en œuvre les choses et tout ça, mais je donne des appuis qui permettent au spectateur de faire la pièce dans sa tête, en fait. C'est un peu ça. Par un rapport... beaucoup d'empathie, en fait, dans Tartuffe, beaucoup. C'est-à-dire que Tartuffe, j'essaye de ne pas le jouer dans des espaces trop grands, par exemple, pour que le corps soit... qu'on puisse être dans un rapport sensible, et que l'effort que moi je fais, la mise en jeu, les états dans lesquels ça me met, tout ça, que les spectateurs, ils ne soient pas juste spectateurs, c'est-à-dire ils n'assistent pas simplement à une représentation, mais ils sont un peu avec moi, quoi. Un peu comme ça peut le faire, des fois, quand on n'est pas très loin d'un sportif, ou... Il y a un rapport comme ça où on sent le corps, on est quelque part, voilà, et on peut se projeter en fait sur ce corps-là, quoi. Voilà. Je sais plus si j'ai fini, mais c'est.
Déjà une bonne réponse. Okay. Et je voudrais savoir aussi par rapport aux pièces de Molière, à l'époque, étaient souvent accompagnées de ballet, musique. Et donc je voulais savoir, est-ce que Tartuffe était lui-même présenter avec un ballet. J'ai pas souvenir de
ça. Alors, je crois pas.
D'accord. Mais non, mais c'était pour savoir. Ouais. C'était pour amener une autre question. C'était l'espace musical. Est-ce qu'il y en a un dans cette représentation?
Alors, il y en a totalement un, mais il est dans la langue, en fait. C'est-à-dire la musique, comme je vous disais, c'est de l'alexandrin. Donc, c'est extrêmement rythmique, en fait. C'est vraiment une partition, quoi. Il y a quelque chose du... Après, ça ne veut pas dire, quand je dis musique, que c'est joué de façon... Il y a une façon classique de jouer les alexandrins. On appelle ça monter à l'hémistiche, c'est-à-dire monter au milieu du vers. Au bout de six pieds, on donne un ton montant. Et puis après, on va redescendre jusqu'au 12e pied à la fin de la phrase. Et on enchaîne cette musique-là, alexandrin après alexandrin. Et la façon que, disons, que moi j'ai de le faire, enfin que j'ai choisi de le faire, c'est un rapport beaucoup plus concret, c'est-à-dire que je veux vraiment chercher le sens. Du coup, s'il faut tordre même la musique des alexandrins, je la tords, c'est-à-dire que je peux m'arrêter au milieu d'un alexandrin, au bout de 4 pieds, au bout de 5 pieds s'il faut. Enfin, je vais vraiment chercher le concret, chercher le sens. Par contre, je fais vraiment les 12 pieds, c'est-à-dire que il y a une sorte de lutte en fait entre une structure qui est ultra dictatoriale, qui s'appelle l'alexandrin, qui est vraiment très rigide. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des pensées, des émotions, il y a des pulsions, il y a des voix fortes, il y a des voix faibles, il y a des hésitations. Enfin voilà, c'est une matière, disons, plus vivante. Et dans la pièce, enfin dans la performance, il y a toujours une lutte entre ces deux pôles-là, quoi. Entre une structure musicale, qui se traduit par une partition qui est très rigide, et puis à l'intérieur, la vie, quoi. Et ces deux choses-là se nourrissent, en fait. Et cette rencontre, même, je dirais, mais ça, c'est une sensation que j'ai, ça produit de l'énergie, en fait. C'est-à-dire, quelque chose se met en lutte, se met en jeu, comme on dit qu'une pièce dans un moteur va jouer. C'est-à-dire, il y a une pièce rigide, il y a une autre pièce, et puis entre ces deux pièces, il y a un mouvement possible, il y a un espace, et ça se met à jouer. Et là, c'est un peu ça, quoi. Ouais.
Dans la musique, il y a aussi les silences. Ouais. Est-ce qu'il y en aura aussi dans le Tartuffe?
Il y en a un peu, mais... pas trop. Ça joue plutôt vite. Il y en a qui sont choisis, qui sont précis et tout ça. Déjà, c'est une comédie. Donc, la comédie, on pourrait résumer ça en disant la comédie, c'est la vie accélérée. Une comédie, ça va toujours un peu plus vite que dans le naturel de la vie, disons. Enfin, il y a quelque chose qui fait que c'est parce que ça va trop vite qu'il y a des accidents aussi et que le comique se déclenche, etc. Donc, y a une volonté d'aller vite. Il y a aussi le fait que je suis tout seul, donc il y a toute une part du jeu comportemental, c'est-à-dire ce que des acteurs à plusieurs vont faire dans les silences, des changements de position, des moments de réflexion, des moments même de présence simplement. Moi, je l'ai pas, c'est-à-dire j'ai juste ma présence. J'ai pas, quand je joue une scène à deux, il y a toujours un fantôme, en fait. Il y en a toujours un qui parle et l'autre est un fantôme. Et puis ensuite, l'autre se met à parler et celui qui parlait devient un fantôme. Donc, voilà. Pardon, j'ai peut-être perdu le fil.
C'était par rapport au silence.
Ah oui, par rapport au silence. Donc du coup, je suis un peu tenu de tenir. C'est-à-dire, je ne peux pas trop laisser flotter, en fait. Parce que c'est aussi parce que la parole continue que le sens tient, en fait.
Il y a une tension.
Il y a une tension du début à la fin. Il y a un moment où il y a une vraie pause, voilà, et après il y a des petits silences, il y a des temps de jeu quand même, dans des tirades longues. Parfois c'est le jeu, ça commence vraiment presque du bout des lèvres, il y a quelque chose qui gonfle en fait pendant la pièce, et le personnage de Tartuffe est joué presque de façon à des moments même caricaturales en fait. Enfin, c'est vraiment très vocalement, Tartuffe en fait, tout ce que les autres n'ont pas le droit de faire, lui il a le droit de le faire. Puisque c'est un transgresseur, je lui ai donné tout pouvoir sur même un jeu grimaçant, des voix excessives, des positions de corps excentriques. Voilà, il a carte blanche, quoi. C'est une sorte de cabot, en fait. Alors que les autres, c'est plus un système, en fait. C'est plus une petite machine familiale que j'essaye d'activer. Donc il y a un truc plus minimaliste, quoi. Enfin, ouais.
Avec un seul rôle.
Avec un seul rôle.
Pour ces personnages, ils n'ont qu'un seul rôle.
Ouais, en quelque sorte, ouais. C'est comme si... c'est comme une hydre, cette famille, quoi. C'est vraiment un... Voilà, je vois ça comme un système ou une hydre ou un microcosme dans lequel il y a des individus qui ressortent, etc. Mais je pense que la pièce, elle raconte ça, quoi. Elle raconte un virus, Tartuffe, qui arrive dans un organisme, cette famille-là, la famille d'Orgon, comment ça dysfonctionne et comment le corps familial se bagarre avec ça. Et comment quelqu'un de peut-être plus malin et qui va mettre en scène un simulacre de sacrifice, c'est Elvire, donc la femme d'Orgon, comment elle va réussir à mener à bien l'exorcisme et révéler l'imposture, en fait. C'est ça le truc, quoi.
Le Tartuffe, c'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui hein, pour désigner, entre autres, certains hommes politiques. Est-ce qu'il y a cette volonté, peut-être sous-jacente, d'amener ce propos ou cette pensée sur le Tartuffe d'aujourd'hui, dans cette version ?
Ben oui, enfin, une volonté de l'amener, je sais pas, mais oui, moi je pense à plein de choses quand je le joue. Mais comme je vous disais, ça ne devient pas une revendication, c'est pas du tout appuyé. Mais par contre, c'est donné clairement. Et je pense qu'à des moments, mais après ça, ça reste un fantasme que j'ai. J'ai l'impression que dans le public, il y a des personnages publics qui peuvent arriver. On peut penser à certains, mais ça reste ouvert, quoi. Il y a pas de désignation, il y a pas de, c'est pas signifié, quoi. C'est juste induit, disons.
C'est une nature.
Ouais, c'est une nature et c'est. Ouais, c'est une nature, c'est une façon de faire, on reconnaît des stratégies, on reconnaît des abus de langage. Il y a vraiment un... par exemple, la pièce, je l'ai jouée aussi à un moment pendant les attentats, que je dise pas de bêtises, du Bataclan. Le lendemain, j'ai joué Tartuffe. Et on s'est même posé la question de jouer ou pas jouer, c'était compliqué. Enfin, d'ailleurs, j'ai joué, puis j'ai un peu regretté. C'était une soirée bizarre. Enfin, je me suis dit, j'aurais dû laisser passer, puis jouer le lendemain. C'était au milieu d'une série à Grenoble. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y avait tout ce qui était sur la religion, et puis la religion qui justifie un pouvoir tout-puissant sur les individus. Voilà, c'était vachement... évidemment, ça ressortait. Mais j'avais pas besoin de l'appuyer, quoi. Enfin, c'est que finalement, tous les jours, on reçoit des informations, on voit des choses, on entend des gens parler, on lit des trucs. Donc le monde nous traverse de façon différente tous les jours. Et donc, si on vient voir Tartuffe le soir au théâtre, je pense qu'à des moments, il y a des liens qui se font, il y a des échos, il y a des choses très nettes qui vont ressortir, quoi. Suivant les époques, les moments et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que la tartufferie, là, elle est un peu généralisée en ce moment. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Et finalement, c'est pas... il n'est pas dans la pièce, en quelque sorte. Enfin, il est là quand... il est quelque part en moi, mais bon, il n'est pas donné, quoi. Ouais.
Est-ce que vous devineriez un peu ce qu'était Jean-Baptiste Poquelin, hein,
ouais.
C'était son vrai nom,
ouais.
Dans son quotidien, à son époque?
Alors, j'en ai aucune idée et je ne me suis pas spécialement renseigné là-dessus. Par contre...
Au travers de ses écrits, on peut peut-être penser à un certain regard qui observe la société. Est-ce que ce regard, vous y trouvez une similitude avec le vôtre?
Ouais, il y a un truc qui est assez fort, je trouve, c'est le rapport à la norme. Je pense que c'est quelqu'un qui est sensible aux normes sociales et qui... Et d'ailleurs, Tartuffe, c'est une pièce qui a fait scandale. Maintenant, elle ne nous scandalise plus, mais c'est une pièce qui a été présentée une première fois dans une version en 3 actes et qui a été... Il y a eu un veto du clergé qui a été posé. Ensuite, il est revenu 2 ans plus tard avec une version en 5 actes. Il y a eu à nouveau un veto du clergé. Et il y a eu une 3e fois, mais je crois que c'était assez rapproché, quelques mois plus tard. Il a réarrangé, recoupé des choses dans le 5e acte, repassé de la pommade sur le consensus de l'époque, c'est-à-dire le roi est bon, le clergé aussi. voilà, il y a une sorte de clarification, mais il est assez délicieux, l'acte 5, que moi je joue pas d'ailleurs, parce qu'on sent vachement un 2e degré dedans et tout ça. Mais malgré ça, le clergé a voulu recensurer, et là le roi a dit non, la pièce va jouer. Et en fait, c'est la première fois en France, historiquement, que l'État, disons, passe devant l'ordre religieux sur une question morale, en fait. Et du coup, ça, c'est un marqueur. On pourrait dire c'est une sorte de geste, le premier geste laïque presque. Il y a un truc comme ça, quoi. Tout d'un coup, ça, voilà, l'État, le roi, enfin, qui est le représentant de l'État, enfin, c'est une monarchie, mais enfin, c'est l'État, passe devant le clergé, quoi. Et pourquoi on parlait de ça ?
C'était par rapport au regard de,
ouais,
de,
au regard
de,
qu'il
du sien
avait.
Et ouais. du vôtre d'aujourd'hui.
Ouais, et je pense que... Ouais, ouais. Donc, en tout cas, j'ai l'impression, pour revenir à ça, que oui, il voit ça clairement, en fait. Il voit comment les individus se débattent avec des normes sociales, comment ça les contraint, comment certains arrivent à passer outre, comment certains se font écraser. Et puis, là où c'est un auteur et un inventeur, c'est qu'il va transformer ça en situation drôle. Ça devient drôle. Et à la fois, ça révèle des... Voilà, des comportements, des conduites, des contraintes sociales, en fait. Ça les révèle et en même temps, il en fait du théâtre comique, en fait. donc, à la fois, c'est parfois vraiment drôle, quoi. Enfin, franchement, il y a des idées pas possibles, des fois. du coup, et voilà, cette chose-là, j'ai l'impression que moi, j'ai un truc avec ça, quoi. C'est quelque chose que je vois, auquel je suis sensible... la question de la transgression, c'est quelque chose qui revient dans les mises en scène que je peux faire. Avec quelles limites on se débat, avec quelles lois, avec quelles règles, avec quelles normes, qu'est-ce que ça nous fait, comment on en a besoin aussi, comment les contraintes nourrissent la liberté, parce que la liberté dans l'absolu, c'est aussi paralysant, du coup il ne se passe rien, puisque tout est possible. Donc voilà, c'est une question que je côtoie. Et pour répondre par un autre biais aussi, c'est que finalement, Molière, moi je le connais par ses textes, donc c'est quelqu'un a produit quelque chose à un moment, qui est un texte théâtral qui nous parvient comme ça à travers les siècles, et c'est vrai que quand je fais Tartuffe, d'après Tartuffe, d'après Tartuffe, d'après Molière, dans le titre d'ailleurs il y a un truc de couche comme ça, et j'aime bien, il y a l'idée de se dire... je vais réactiver pour la énième fois cette pièce qui a été montée de mille façons et tout ça. Pas pour amener mon petit point de vue ou ma variation ou mon coup d'œil sur la pièce. Pas tellement pour ramener ma fraise, mais pour tenter de retourner aux sources. C'est-à-dire, et de se dire, finalement, celui qui a écrit ça, c'est un auteur-acteur, c'est-à-dire qui jouait. Et en fait, ça se sent vachement, je trouve, dans son écriture. Il y a un truc très organique. Et quand je l'ai... Au début, quand j'ai tenté de lire la pièce tout seul, c'était assez facile, en fait. C'est-à-dire que c'était évident pour moi que... Pour moi, il avait, chez lui, essayé les scènes tout seul. Je me disais, il a tout vérifié oralement, les conduites de jeu, les montées d'état. On sent que quand il y en a un qui s'énerve, l'autre... se met en dessous au niveau énergétique, le potard baisse. Du coup, il y a une sorte d'organisation comme ça, vivante, qui est vraiment qui est associée pour moi à la pratique d'un acteur. Il sait comment ça marche, quoi. Enfin, et c'est comme si, c'est aussi pareil, hein, ça reste une hypothèse et un fantasme, mais je me dis, c'est comme si il l'avait écrit pour que ce soit joué tout seul, en fait. Il aurait pu le faire, en fait. Donc finalement, moi, ce que je fais en le faisant tout seul, c'est que je me rapproche du geste, du jaillissement de l'écriture, en fait. Voilà, quoi. Comme si finalement, même la distribution à nombreux était aussi un ornement et qu'on pouvait enlever les décors, enlever les costumes, enlever des effets de lumière. Il n'y a aucun effet de lumière dans le spectacle. Enlever de la musique extérieure. Et on peut aussi enlever la troupe. Et la troupe, elle peut être chez une seule personne.
Il n'y a aucun effet de lumière, mais quelle lumière est présente sur la scène ?
C'est une sorte de plein feu qui ressemble un peu à un éclairage de stade. C'est-à-dire, vous voyez, dans les stades, il n'y a pas d'ombre. Voilà, exactement, quoi. Mais sur les visages, les personnes, comme c'est posé en croix... Nous, on n'est pas vraiment en croix, mais bon, ça ressemble à ça quand même. Comme c'est posé en croix, les projecteurs, enfin, il y a les quatre points cardinaux amènent de la lumière. Du coup, il n'y a pas d'ombre sur les visages. On voit des ombres au sol, mais il y en a effectivement quatre en croix. Donc tout est... c'est assez atroce d'ailleurs comme éclairage. C'est la transparence, quoi.
Mais c'est voulu.
Oui, c'est voulu, ouais. C'est l'idée de dire rien n'est caché, il n'y a pas de coulisses. après, la coulisse, elle est aussi dans l'imaginaire du spectateur, elle est dans l'intériorité de celui qui joue aussi, il y en a toujours une en fait. Finalement, c'est une façon d'orienter le regard du spectateur, de l'inviter à recréer de la coulisse et du mystère, lui en fait, dans sa tête ou dans son corps, enfin... C'est une façon de créer un handicap presque pour révéler une puissance ou je sais pas comment dire, un truc comme ça.
Cette volonté d'être seul sur scène, cela amène quand même aussi à un retour de ce que l'on présente au public. Pour ça, vous avez eu affaire à un regard extérieur ou un soutien ?
Alors, j'ai pas du tout, pour monter la pièce, pas du tout. C'est-à-dire que, et même, il y a un copain-ci qui est venu à la toute fin, qui s'appelle Yann Métivier, qui m'a aidé un peu à accélérer le processus parce que j'étais en retard, en fait. Mais je lui disais, tu n'as le droit de prendre aucune décision de mise en scène. Enfin, c'est juste, des fois, je lui demandais des choses, il me suggérait des trucs, mais. Et c'est tentant parce que de l'extérieur, on voit beaucoup de choses. Et finalement, je savais que comme mon parti pris, c'était. De ne pas être dans un rapport d'image, mais d'être dans un rapport d'empathie par le jeu, je savais que ce qui guidait, c'était mes sensations de jeu. Pas dans le but d'être égocentré. Et de enfin, je veux dire, ce n'est pas pour dire que le point de vue de celui qui est en face n'est pas intéressant, mais c'est que ce n'était pas le processus, quoi. Il y avait un truc voilà, que je voulais vraiment tenter en disant « si je comprends ce que je fais, c'est lisible. Il n'y a pas besoin de codifier, il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de vouloir mettre en scène, enfin, au sens de rendre les choses plus signifiantes, en fait. Voilà. Mais par contre, depuis que je joue, il y a plusieurs personnes qui m'ont accompagné. Et maintenant, je tourne quasiment exclusivement avec quelqu'un qui s'appelle Viviane Balsiger et qui est plus une accompagnatrice physique, en fait, qui fait une préparation physique, elle a beaucoup de compétences à son actif. Avec des disciplines comme on fait du Qigong, y a une méthode qu'elle utilise qui vient de la danse qui s'appelle la méthode Alexander. On fait un peu de yoga des fois et c'est vraiment sur mesure en fonction de l'état dans lequel je suis. Elle adapte les exercices et les choses. On fait une petite chauffe vocale aussi. Enfin, elle essaye de faire en sorte que je sois en état de jouer le truc. Ce qui, des fois, quand je fais des séries, n'est pas si simple, parce que c'est très physique. Et voilà. Maintenant, j'ai un peu vieilli, donc j'arrive plus à en faire 5 de suite, par exemple. Si j'en fais 5 de suite, il y en a forcément une qui est un peu à côté, quoi. Donc, j'en fais plus que 4 de suite. Enfin, voilà, c'est assez. C'est vraiment. Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé de ça, mais c'est vraiment éprouvant physiquement, quoi. C'est vraiment une performance au vrai sens du terme. C'est fatigant.
Ça sera peut-être l'occasion d'en parler à la prochaine émission consacrée à une autre pièce de spectacle qui se jouera fin juin, donc La Centrale en Chaleur.
Ouais.
Et sur ce, je voudrais savoir quand même, mis à part le Tartuffe, j'imagine que vous avez participé à d'autres représentations ou d'autres créations aussi. On peut en parler brièvement. Je pense que pour vous, le Tartuffe, c'est quand même un moteur pour votre exercice, en tout cas votre profession.
Ouais, ça a été un moteur longtemps, en tout cas, même pour la compagnie qui s'appelle Groupe Fantomas. C'est aussi un moteur, ça a été le déclencheur déjà de la compagnie, parce que c'est le premier spectacle. J'ai fait Tartuffe et ensuite j'ai monté la compagnie Groupe Fantomas, après avoir eu d'autres compagnies avant qui étaient plus des collectifs. Et c'est aussi un moteur de rencontre, parce qu'en fait, ce projet peut jouer quasiment partout. Il est très peu contraignant techniquement, y compris dans des lieux non théâtraux, on peut facilement l'adapter. Et c'est très ouvert sur le public à qui ça peut s'adresser, parce que c'est un classique d'un côté, et puis la mise en œuvre n'est pas du tout classique. Des gens qui ne vont pas trop au théâtre peuvent s'y retrouver, parce qu'il y a un truc qui est hyper brut. Donc ça, voilà, il y a un côté, ça ratisse large, quoi. Et puis aussi, c'est un spectacle qui tourne pas mal, donc qui sert à nourrir financièrement d'autres projets qui sont plus difficiles à tourner, comme par exemple La Centrale en Chaleur, qu'on viendra faire à Die aussi là, le 26 juin, si je ne me trompe pas, qui est un roman japonais sur la catastrophe de Fukushima, qui est une farce sur la catastrophe de Fukushima, qu'on a adapté. Tartuffe, il y a un côté, ça a été un moteur. Après, là, c'est vrai que la saison dernière, ça devait être la tournée d'adieu, ça devait être la dernière, parce qu'à un moment, j'ai, envie d'arrêter avant d'en avoir marre, d'arriver à sentir ça. Et puis là, avec le Covid, il y a eu des reports, on n'a pas joué pendant un an, donc on a plutôt dit, on reporte, quoi, on fait un an de plus. Donc là, a priori, c'est parti pour se finir fin 22. Voilà, ça ira jusqu'à fin 22.
Ça a été vécu comment, cette période de Covid, de confinement? Tout l'interdiction d'exercer en public.
C'était. J'ai du mal à synthétiser encore, en fait. C'est très contradictoire. Déjà, moi, je suis arrivé dans la Drôme juste avant le Covid. J'habitais à Villeurbanne avant. Donc, c'est aussi un changement d'environnement. Enfin, tout s'est un peu mélangé. Covid, j'ai des enfants depuis pas très longtemps aussi. Enfin, il y a une sorte de truc où. Donc, j'étais pas trop dans mes repères. Donc. Je sais pas, le premier confinement, moi j'ai eu le Covid et ça a duré vraiment longtemps et j'en ai quand même un peu bavé, donc ça c'était pas cool. J'ai trouvé ça copieux quoi, c'est la première fois de ma vie que je me suis senti malade, j'ai toujours eu des petits rhumes, des trucs, mais bon, j'étais... Et après, le premier confinement, comme on était dans un environnement très privilégié, c'est vrai qu'on a essayé d'en profiter, même si moi j'étais malade et tout, mais... Bon, on s'est organisé avec nos enfants, voilà. J'ai rien à dire c'était un quotidien, au bout du compte, compliqué parfois, mais plutôt agréable, on va dire. Après, ça s'est compliqué, c'était plus difficile, quoi. Et il y a eu tellement de phases différentes que je ne saurais pas vous faire une synthèse. Mais en tout cas, le fait de ne pas jouer, mais pareil, ça c'est des réponses personnelles, mais bon, je vous réponds quand même. C'est que finalement, nous, on a acheté une baraque, en fait, dans la Drôme, il y avait tout à refaire. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour me consacrer à ça. Donc là, je viens quasiment de finir. Donc, j'ai fait 9 mois de chantier. Donc, ça a fait que, à titre personnel et psychologique, j'avais ça à faire. Et du coup, j'étais pas en angoisse, j'étais pas en. Un peu. Enfin, ça m'a questionné sur plein de choses, mais. Je sais pas comment dire, c'était pas un truc, ça m'a pas mis mal personnellement quoi. Après évidemment que ça crée un gouffre et qu'il se passe plein de trucs et qu'on se pose des questions et que ça modifie des choses, mais là je sais pas encore quoi en fait, c'est trop proche.
Vous serez visible avec ce spectacle Tartuffe au Théâtre Les Airs à Die. Ça sera le jeudi 28 mai à 19h30. Hein.
Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça.
Et par ailleurs, vous avez certainement un site internet pour votre compagnie ou un blog ?
Alors, on a un Facebook. Moi, j'ai pas vraiment passé le 21e siècle sur ces affaires. Donc, on a un Facebook et c'est juste informatif, il est très simple. Il y a quelques liens où on peut voir des teasers d'autres spectacles et tout ça. Oui, c'est Groupe Fantomas. Je ne sais plus comment ça marche, Facebook. On tape Groupe Fantomas et Facebook, et il arrive.
Eh bien, Guillaume Bayard, je vous remercie d'être venu nous voir sur Air d'Ivoire pour nous parler donc de Tartuffe, inspiré de Molière. On peut dire inspiré ou alors c'est du Molière ?
Non, c'est vraiment du Molière. C'est pas, il n'y a aucune réécriture. C'est vraiment très rigoureux d'ailleurs avec la langue et tout. C'est vraiment du Molière dans le texte en barre, quoi. Au début, on se dit mais il est fou, on comprend rien. Pendant 10 minutes, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Et puis après, quelque chose s'éclaire et se met à jouer et à être... Mais ouais, il y a un truc un peu... Ouais, comme ça.
Ça vous interroge ? Ça, c'est intéressant, ça. Ça vous interroge que le public pense que vous êtes un fou au départ du spectacle ? Est-ce que justement, cet aspect de cette comédie amène un certain malaise au départ, peut-être ?
Malaise, je sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a peut-être... On part pas sur un consensus, quoi. Il y a un truc un peu... Je parle pas forcément très fort. Puis c'est la scène la plus dure à jouer, la première scène, parce qu'ils sont très nombreux. Et comme je fais tout seul et qu'on n'a pas encore compris comment marche le système de jeu, les gens sont un peu paumés, sauf ceux qui connaissent très bien la pièce, etc. Mais finalement, ils sont assez rares. C'est comme une séduction aussi. C'est une façon de dire je fais une petite mare incompréhensible. Et puis après, il y a le plaisir de cette mare, de voir apparaître des trucs de plus en plus clairs, limpides. Donc c'est une façon aussi de mettre les spectateurs à zéro. Ça, c'est un truc que je fais vachement dans tous mes spectacles. Il y a toujours au début une façon de se mettre à zéro. Enfin, de dire, venez, on éteint tout, on se met à zéro, on ne sait plus ce que c'est le théâtre, on sait plus, on connaît plus rien. J'essaye de, c'est jamais possible vraiment de faire ça absolument, mais j'essaye de provoquer une sorte d'attitude comme ça chez le spectateur souvent. C'est une sorte d'invitation, de dire venez, on se met à zéro, puis on monte les choses petit à petit, quoi.
Guillaume Maillard, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Like the rave, the bass gon' break the whole stage.